RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show.
Tony Parker with a goal.
Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, c'est le premier Tipeee Show de l'année. Bonjour messieurs, salut Tipeee.
Ça va, vous allez bien?
Très bien, bonne année à toi.
Bonne année à tout le monde, bonne année à toi, bonne année à Jacques. J'espère que tout le monde va bien.
Salut Jacques.
Ouais, salut Pierrot, salut Tony, les vœux à tout le monde bien sûr.
T'es en forme, toi, tu t'es pas vraiment arrêté, il y a de la NBA, il y a eu de la NBA pendant les fêtes.
Oui, mais moi je la regarde, j'en connais un qui la joue, et ça c'est plus fatigant.
Alors Tipeee, ce soir, les Spurs sont à Milwaukee, mais on a vu que tu ne jouais pas, donc t'as accompagné l'équipe ou t'es tranquille?
Non, je suis resté à San Antonio. Je me suis fait un petit truc contre Washington il y a 2 semaines et j'ai joué dessus. Et donc là, le coach il voulait pas prendre de risque, donc voilà, on a fait des petits examens, mais rien de grave. Normalement, tout se passe bien. Je serai de retour mercredi.
Bon, on en reparlera tout à l'heure dans l'actu des Spurs. Au programme, l'équipe de France avec Patrick Bisley, parce qu'on va vous détailler comment va se passer cette année olympique. Et puis Fred Fautou, le nouvel entraîneur de Jacques, on peut le dire. En tout cas, du Paris-Levallois.
Surtout. Oui.
On parlera également hockey avec Pierre-Édouard Belmar. C'est parti pour une heure de Tony Parker Show.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show.
Et d'abord, le 32e de finale de Coupe de France entre Nice et Rennes. Grosse affiche. Comment ça se passe, Yann Pécheral? Salut Yann.
Bonsoir messieurs. C'est parti depuis 17 minutes et 30 secondes ici à l'Allianz Riviera. 0-0 entre Nice et Rennes. Un début de rencontre plutôt dominé par les Niçois. Mais petit à petit, les Rennais sortent de leur coquille. 18 minutes bientôt et 0-0.
Merci Yann, à tout à l'heure. Tout de suite, c'est une année olympique sur RMC.
RMC, France Olympique.
Et donc, on va parler de l'équipe de France qui doit se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio avec son directeur technique national, Patrick Bisley. Salut Patrick.
Oui, bonjour.
Salut Patrick.
Salut, ça va bien?
Oui.
Alors, on est avec Tipeee, bien sûr, qui est en direct à San Antonio. C'est une grosse saison pour la Fédé parce que il y a les qualifs olympiques femmes et hommes, bien entendu. Hein. On n'oublie pas l'équipe de France féminine. Et puis donc, il y a cette équipe de France masculine qui est quand même parmi les meilleures nations mondiales, qui n'est toujours pas qualifiée. C'est une année à pression, Patrick. Hein.
Oui, c'est tous les ans la pression. Non, mais disons que l'année olympique a toujours un petit côté exceptionnel, parce que les Jeux olympiques, c'est quelque chose de fabuleux, voilà. Donc là, on se retrouve avec les deux équipes qui sont en course. Certes, il faut passer par des pré-olympiques, plus facile chez les filles que chez les garçons, mais bon, on va tout faire.
Alors évidemment, l'équipe de France va tout faire pour se qualifier. Ça va se passer du 4 au 10 juillet. Et ça, c'est important.
5 au 11, je crois, non?
4 au 10.
Fais gaffe si t'arrives un jour en retard.
François Pesanti va gueuler si je rate un match.
Alors, c'est pour ça qu'on voulait faire le point avec Patrick Bisley, oui. Tipeee, parce que ça implique beaucoup de choses, notamment pour les joueurs de NBA et bien sûr pour toute l'équipe de France. Il y a 18 participants et 3 places. Il y a 3 tournois de qualif. On ne sait pas encore exactement où ça va se dérouler. Mais tout ça, Patrick, ça doit être des scénarios.
Sera quand d'ailleurs où c'est pas tirage le 26 à Genève dans 3 semaines. On sera renseigné.
Tirage pour savoir les endroits, pas pour avoir la répartition des poules, Patrick, c'est bien ça.
Si, on va avoir les lieux et les poules.
Et ils vous ont dit là s'il y avait les têtes de série, s'il y avait.
Alors il n'y a rien qui a été précisé, mais on nous a fait comprendre qu'il y aurait un équilibre, une répartition par zone géographique et par niveau. Donc on peut espérer que on pourrait être tête de série. Voilà.
Ah, ce qui serait déjà une bonne nouvelle.
C'est-à-dire, par exemple, excuse-moi Tony, c'est ne pas être avec les Serbes, c'est ne pas être avec ce type de.
Alors, ce qu'il faut savoir, il y a trois lieux. À l'intérieur de chacun, il y a 2 poules. Donc, on peut imaginer que ça fait 6 groupes et que les Européens vont être répartis. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a 5 Européens et qu'il reste 3 places de wildcard à donner. Donc on peut très bien se retrouver
avec
plus d'un Européen dans une poule et en finale, bon voilà, ça va être une partie entre Européens quoi.
Patrick Bisley, le DTN du basket français, dans le Tipeee Show. Alors on fait le point sur la saison des Bleus parce que ça va être une saison un peu spéciale avec ce TQO, ce tournoi de qualification olympique, qui va se terminer moins d'un mois avant le début des Jeux Olympiques de Rio. Hein. Et on peut imaginer qu'il y aura des joueurs français en play-off, voire en finale. Hein. Ça peut être le cas pour Boris et Tipeee.
Très certainement, on va faire quelque chose à la carte. C'est-à-dire qu'on va, proposer quelque chose à partir du 15 juin. Ceux qui seront en dispo, qui seront libres, vont commencer à travailler. Et puis, après, on recevra les invités au fur et à mesure. C'est impossible aujourd'hui de savoir exactement les dates. Là, on discute encore avec la Ligue nationale de basket pour essayer de terminer le championnat plus tôt. Bon, je pense qu'on va arriver à une petite solution, mais il y a ceux qui sont sur l'Euroleague et puis il y a la NBA. Voilà.
Ouais, ça va être une fin de saison chaude, Tipeee. Hein. Quel que soit votre parcours avec les Spurs, tu vas pas te reposer cet été. Hein.
Non, c'est clair que là, ça va être difficile. Hein. Comme tu dis, Patrick, là, c'est vraiment difficile que ce soit la NBA ou l'Euroleague et même la Pro A, hein, parce que la Pro A, ça peut se terminer tard aussi. Donc, je sais pas l'accord qu'ils vont faire avec la CD, mais c'est vrai que ça va être un peu difficile. On sait pas avec quelle équipe on va jouer. Les joueurs NBA qui va venir, parce qu'il y en a qui seront en pleine négociation de contrat, donc ça va être vraiment difficile.
Alors justement sur les négos de contrat,
il y a la fameuse date, bon, entre les joueurs qui sont free agent, les joueurs qui sont restricted free agent, les joueurs qui doivent re-signer des contrats, les signatures je crois ne sont validées qu'à partir du 8 ou 9 juillet, hein, c'est ça Tony?
Oui, exact.
Oui, Patrick, ouais, c'est ça. Donc, ça implique qu'il y a peut-être un moment, Patrick, où c'est notre Fédé qui va devoir couvrir des risques d'assurance, je sais pas.
Ça, c'est pratiquement sûr. Mais après, je compte sur la bonne volonté, j'allais pas dire des joueurs, surtout des agents. Voilà. On peut faire des choses, on l'a déjà fait, mais il faut que ça reste dans la mesure du raisonnable. Voilà. Nous, nos assureurs, ils peuvent pas couvrir des contrats virtuels. Voilà. Donc, courir sur les contrats en cours, c'est possible, mais pas sur les contrats virtuels. Voilà, c'est les points d'achoppement qui pourraient éventuellement exister.
Ce qui veut dire que si éventuellement un joueur n'a pas encore trouvé d'accord avec son futur club, il ne jouerait pas le TQO tant qu'il n'aurait pas signé son contrat ?
Si, il y a possibilité. Si ce n'est que la Fédé doit couvrir cette période où le joueur n'a pas de contrat.
Et que ça coûte plus cher du coup en termes d'assurance.
Voilà. Mmh. Mais après, les assureurs, ils couvrent sur un montant estimé. D'accord. Je le disais, il faut que le montant estimé soit raisonnable.
Après Pierrot, tu sais, on en avait parlé avec Vincent Collet, et même si, imaginons, on va leur souhaiter que Tony Boris fasse la finale, tu fais la finale, tu finis le 20-21 juin, tu leur laisses faire la parade, s'il y a parade, ça fait le 23. Et ben, tu sais quoi, tu les fous au repos une semaine et tu les fais jouer la semaine qui précède la reprise. Mais des joueurs, si on a le cas de figure d'aller jusqu'au bout, il faut qu'ils se reposent.
Tipeee Jacques, il est en train de négocier tes vacances avec Patrick Bisley dans le Tipeee Show.
Vincent, il nous l'avait dit. Vincent, il nous l'avait dit en direct. Je sais pas si c'était au Moscato ou avec Tony.
Bon, Patrick, juste deux petites questions, ensuite on vous libère. Juste par curiosité et pour les gens qui nous écoutent, ça représente, c'est quel ordre de grandeur comme budget pour la Fédé, ces assurances? Ça, on parle en dizaines de milliers, en centaines de milliers, en millions d'euros, c'est quoi exactement?
Alors écoutez, habituellement, ça, c'est un sujet sur lequel on préfère garder la confidentialité, vous le comprendrez.
Même en ordre de grandeur, vous pouvez pas nous aiguiller.
C'est des grosses centaines de milliers.
D'accord, oui, donc c'est des enjeux énormes, quoi.
Ça pique un peu.
Bon, on va accueillir Jérémy, supporter de l'équipe de France, dans le Tipeee Show 32-16. Salut Jérémy.
Salut à tous, meilleurs voeux à tout le monde.
Jérémy, tu avais une question à poser sur ce fameux tournoi de qualification olympique.
Voilà, tout à fait. En fait, je voulais voir avec le DTN si, parce qu'il avait mis un ultimatum à Joachim Noah l'année dernière, avant l'Euro, qu'il avait, bon, du coup, il avait dit que l'équipe de France, c'était pas sa préférence, il était plutôt pour les Bulls. Est-ce que, arrivé un moment, il est grillé pour l'équipe de France, ou, comme chaque année, on va le relancer, lui demander de venir, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il...
Alors, est-ce que la situation de Joachim a changé, a bougé? Est-ce qu'il y a du nouveau, Patrick Bisley?
Alors, pour moi, c'est plus d'actualité. J'ai dit certaines choses l'année dernière, il y avait une fenêtre l'année dernière. Cette année, Joachim, va devoir renégocier son contrat. Ça va être une situation improbable et donc je vais pas me relancer dans des histoires pas possibles. Donc pour moi, c'est plus d'actualité.
D'accord, trop compliqué. Au moins, le message est clair. Merci beaucoup, Patrick Bisley.
À très bientôt, Tony. Bonne chance à toi. À très bientôt.
À bientôt. Bonne année. Salut,
Patrick. Salut, Patrick.
On dit doublement merci parce que Patrick est en transit et il a un avion à prendre. Hein. Juste avant de revenir sur l'actualité des sports qui a été riche pendant les fêtes, on va retourner à Nice pour le 32e de finale de Coupe de France de football. Nice-Rennes, Yann Pécheral.
Une rencontre toujours aussi indécise. Hein. 26 minutes d'écoulée ici à l'Allianz Riviera. 0-0 entre Nice et Rennes. Très peu d'occasions, même si on a vu une belle incursion de Cheikh Mbeng sur le côté gauche. Pour le moment, la rencontre est très fermée. On en reste à 0-0 entre Niçois et Rennais. On joue la 27e minute.
Merci Yann, à tout de suite. Et avec Tony Parker et Jacques Monclar, l'actu des Spurs, c'est dans quelques instants sur RMC.
RMC, le lundi 21h, 22h, c'est le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, c'est reparti jusqu'à 22h pour parler basket, pour parler NBA bien sûr, mais aussi Pro 1, puisque le Paris Levallois a changé de coach. On sera avec Fred Fautou dans quelques instants. Mais d'abord, retour au foot, retour au direct, 32e de finale de la Coupe de France Nice-Rennes, Yann Pécheral.
La 28e, 0-0 entre Nice et Rennes, mais une très belle occasion niçoise il y a une toute petite minute avec un centre venu de la droite de série, la tête de Paul Bayes au deuxième poteau qui oblige Benoît Costil à se détendre sur son côté gauche et à mettre le ballon en corner. C'est la meilleure occasion du match, mais pour le moment on en reste à 0-0, on joue la 28e minute.
Merci Yann, à tout à l'heure. Ah tiens, juste avant l'actu des Spurs, ça vous a pas échappé, et je pense que même aux États-Unis l'information a dû arriver. Tipi, t'as vu que Zizou est entraîneur du Real puisqu'on parle de foot?
J'ai vu.
C'est belle info quand même, depuis le temps qu'on l'attendait.
Non, c'est vrai, hein, moi je suis content pour Zizou. Hein. C'est quand même voilà, quelqu'un de super important dans le sport français. Et donc c'est sympa de voir qu'il réussit sa reconversion. Voilà, Real Madrid, c'est un gros challenge, hein, c'est pas n'importe quel club. Hein.
Après, pour ce genre de joueur, on a toujours l'impression que, pas c'est facile, mais que ça c'est peut-être plus facile pour eux que pour d'autres. Attention, hein, tous les grands joueurs font pas des grands coachs. Je pense que des cas comme ça, il y en a plein également en NBA. Il y a, bah, le dernier en date, c'est peut-être Jason Kidd, non? Qui est passé de l'autre côté, dans les très grands joueurs.
Jason Kidd, ça va, il a bien.
Ouais,
réussi,
non, hein. Mais je dis pas qu'il se débrouille pas bien, mais Derek Fisher, ouais, il y a quelques-uns.
Oui, bon,
Fisher, hein, Fisher, il est très bien, Fisher.
Ouais, ouais, mais c'est un peu aussi comme si, bah, par exemple, un joueur qui a marqué son club, prenait que ce club-là joue les deux, trois premières places.
Bah, par exemple, comme si Tipeee devenait entraîneur des Spurs un jour, quoi.
Bah, oui, finalement, ouais.
La
Tony,
comparaison,
Duncan,
c'est ça. Hein.
Ou Ginobili qui viennent à la suite de Popovic, quoi, voilà.
Toujours pas envie, Tipeee.
Non, ça pas bien.
Tony, non, moi, ça ira.
Tu passes ton tour. Bon, allez, on va parler des Spurs tout de suite.
RMC, le Tony Parker Show.
Tony Parker, Tipeee Inside.
Tiens, pour ceux qui ont raté le début de l'émission, je rappelle que tu joues pas ce soir, hein, à Milwaukee. Blessure sur laquelle tu joues depuis 15 jours, mais a priori pas grand chose de trop grave, hein, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure.
Non, c'est pas grave, mais il fallait que je fasse une IRM juste pour être sûr. Et donc Pop, il a pas voulu prendre de risque parce que ça faisait 2 semaines que je jouais dessus, et donc normalement, si tout va bien, je serai de retour mercredi soir.
Bon, ça va, t'as pas fait trop d'excès pendant les fêtes?
Non, pas du tout. Ben non, on avait un gros match contre Houston, donc j'étais content, c'était une bonne victoire pour nous. On s'est bien rattrapé après une défaite un peu énervante le jour de Noël.
Alors justement, Houston, c'est votre seule défaite pendant cette période. Depuis le dernier Tipeee Show, il y a eu 7 matchs, 6 victoires, une défaite justement à Houston avec des gros écarts. Ça tourne quand même très fort là. Hein. Quand tu dis on est un sous-marin, vous pouvez plus trop vous cacher quand même.
Hein. Non, on joue bien en ce moment, on joue bien en basket. Notre défense, elle est bien en place, et en attaque, on progresse de match en match. Donc non, ça se passe bien. Hein. De toute façon, après, nous, on sait que... Et le plus important pour nous, c'est d'être en bonne santé quand les playoffs vont commencer et jouer notre meilleur basket. Donc on continue notre petit rythme de croisière, et pour l'instant, ça se passe bien.
Je sais pas si tu as vu cette stat, Jacques, mais les Spurs, c'est l'équipe qui a le plus gros différentiel de points en moyenne. 13-6 contre 11-8 à Golden State.
Il joue bien au basket, il se passe bien la balle, ils sont tous investis, ils sont chacun dans un rôle. Je suis très impressionné par la manière dont LaMarcus Aldridge s'est intégré.
Alors LaMarcus Aldridge, on m'a soufflé à l'oreille qu'il a trouvé un nouveau surnom à Boris Dio. Ouais. Boris Dio désormais, c'est Tea Time.
Tea Time, il branle-t-il le gros.
Tea Time, ah bon, c'est ça?
Ouais, Tea Time, parce qu'il est toujours tranquille, mais que rentre, quoi, tu vois.
Ah, mais il boit du café.
C'est vrai. C'est le rythme, tu vois, le rythme à la British, tranquille, on boit le thé, tranquille, mais hop, c'est bon.
Ah ben, notamment contre Houston, il a fait un très gros match, Boris, un match fantastique.
Ah, contre Houston, il était bien, ouais, parce qu'on avait un petit avantage sur les match-ups, là, et donc Boris, on a profité.
Hein. Ah, c'est vrai que quand ils avaient, tu vois, Pierrot à San Antonio en ce moment, il cible bien l'avantage physique. Et quand le groupe, quand Boris, il s'est emmené les mecs, il se les a mis derrière, tu vois, il les a popotinés, tu vois, il a, parce qu'il est joufflu de la fesse et derrière, il a envoyé le petit hook qui allait bien.
Il a mis des super shoots. En ce moment, on prend beaucoup avantage des, ouais, des différents match-up et Boris, il se retrouve souvent avec des avantages, en fait, et donc on l'utilise bien en ce moment.
Tiens, Enzo nous appelle au 32-16 dans le Tipeee Show pour parler des Spurs avec Tony Parker et Jacques Monclar. Salut Enzo.
Salut à tous.
Salut.
Je voudrais quand même parler du coup de tonnerre, du choc qu'il y a eu aux Spurs. Tim Duncan, 0 points.
Ah oui, pour la première fois en 19 ans de carrière, il n'a pas mis un panier dans un match. C'était justement contre Houston en 13 minutes de jeu. Ouais.
1359 matchs, c'est-à-dire que c'est le meilleur devant Karl Malone, franchement, un vrai tocard, celui-là. Non, du coup, ma question, c'est est-ce que, du coup, la prolongation de 5 ans de Tim Duncan est remise en cause?
Non, pas du tout, ça c'est juste, voilà, il avait loupé deux matchs sans blessure, là, avec son genou, et donc il est revenu, et c'était un très gros match, et comme on en a parlé, Boris, il était vraiment chaud, parce qu'il switchait, en fait, les pick and roll sur moi. Et donc après les petits ils étaient sur Boris ou sur David West, et donc on a beaucoup joué sur Boris et David et ils ont vraiment bien joué, et donc Pop il voulait pas trop tirer sur Tim parce qu'il revenait de blessure, et donc voilà, c'est un concours de circonstances, hein, mais bon, je m'inquiète pas pour Tim, hein, ça, à mon avis dès ce soir là ça va être réglé, quoi.
Et est-ce que dans ce genre de cas le champion qui sommeille en Tim Duncan est légèrement vexé ou il s'en fiche carrément?
Pas du tout, mais non, c'est comme Jacques il expliquait tout à l'heure, on a tous un rôle, et c'est pour ça que nous, notre équipe, tu peux pas juger les saisons individuellement, parce que tout le monde fait des sacrifices dans cette équipe, et la Marcus, comme il a dit tout à l'heure, Jacques s'intègre merveilleusement, parce que c'est quand même quelqu'un qui tournait à 24 points de moyenne et 12 rebonds, je crois, l'année dernière, et il prenait 20 tirs par match, et là, il s'est complètement intégré dans notre équipe. Et donc tout le monde fait des sacrifices, que ce soit moi, Tim, Manu, Kouraï, tout le monde fait des sacrifices pour le bien de l'équipe.
Pas Manu, il continue à faire régaler, lui, il continue à nous régaler, ne changez pas lui.
Mais non, mais c'est important pour le succès de l'équipe, et tout le monde va dans le même sens. Et donc c'est pour ça que Tim, non, pas du tout vexé, il est content, on gagne, c'est le plus important.
Il y en a un qui a trouvé du temps de jeu aussi pendant que Tim Duncan a eu besoin de souffler, c'est
Boban Marjanovic,
le préféré de Jacques Marjanovic.
Tu vas voir qu'il va leur servir une fois ou deux.
Tony. Il a été très très bon, hein, sur les deux matchs où Tim il était blessé, là il a été très très bon.
Dis-moi Tony, est-ce qu'il a plus la cote que Matt Bonner avec le public de San Antonio?
Oui, oh, largement.
C'est une idole, c'est en train de devenir une idole au AT&T Center.
Ah ouais, non mais c'est plus qu'une idole, hein, c'est le chouchou. Hein.
Et pourquoi en fait, ça vient d'où? C'est son look, son gabarit.
Déjà il a un corps immense, et puis, voilà, il est super gentil, c'est... Il fait 2m25, je sais pas, les gens, ils adorent le voir jouer. Et puis, il est talentueux, hein. Il est pas que grand. Franchement, il sait jouer au basket, hein. Il est intelligent, hein. Il a un bon petit tir. Non, c'est un bon joueur, hein. Il l'a prouvé, là, sur les deux matchs où Tim était blessé.
On l'a vu dunker quasiment sans sauter, hein.
Il est long,
hein. Il a même pas besoin de sauter, hein.
Bon, Tipeee. Merci Enzo pour ton appel au 32-16. Dernier mot sur l'actu des Spurs, parce que jusqu'ici, bon, vous déroulez, comme on le disait. Il y a quand même un mois de janvier qui va être intéressant parce que vous affrontez Cleveland et Golden State. Alors Golden State, c'est pas tout de suite, ce sera le 25.
25, ouais.
Mais Cleveland, ça va arriver vite là. Vous devez avoir hâte quand même, non?
Ouais, bah de toute façon, faut y aller étape par étape, hein. Nous, tu sais comment on est, nous les Spurs, c'est match après match et on se concentre sur nous et ce qu'on doit faire pour progresser, donc ça va être sympa, ça va être des bons challenges ces matchs-là.
Rendez-vous donc le 14 janvier pour le match face à Cleveland. Tipeee Inside avec Tony Parker, c'est le Tipeee Show. Dans un instant, on va parler de la Pro A et du Paris Levallois. D'abord, retour au direct et à la Coupe de France, 32e de finale entre Nice et Rennes. C'est un match qu'on suit avec Yann Pécheral.
La 36e minute ici à l'Allianz Riviera, toujours 0-0 entre Niçois et Rennais, et à la suite de cette tête de Paul Paul Bayce qui est la seule occasion niçoise de cette première période. Et bien les Rennais ont réagi avec une frappe de Pedro Henrique mais pas cadrée. C'est une toute petite première période, pas de but. Il reste moins de 9 minutes à disputer dans cette première période et toujours 0-0.
Merci Yann, le Tipeee Show ça continue, la proie et le nouvel entraîneur du Paris Levallois Frédéric Fautou, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Parker again. Pierre Dorian et Tony Parker.
Et avec Jacques Monclar, c'est l'actualité du basket, comme tous les lundis soirs, 21h, 22h. On n'oublie pas le foot, il y a le direct, on va y aller hein, dans un instant, mais je vous rappelle aussi l'info de la soirée, hein, si jamais ça vous a échappé. Maintenant, bon, ça fait une grosse heure que c'est officiel, Zinedine Zidane est l'entraîneur du Real Madrid. Alors évidemment, on y revient jusqu'à minuit, et notamment dans l'after foot, mais si vous débarquez de la planète Mars, voilà, sachez que ça y est. Zizou est aux commandes du Real. Freddy Fautou va nous rejoindre et puis on parlera avec un jeune qui a tenté l'aventure NBA, qui essaye de s'imposer justement à Milwaukee, l'adversaire de San Antonio. C'est Damien Inglis qui essaye de trouver du temps de jeu. On va découvrir tout ça dans un instant. Le live d'abord, donc Nice-Rennes, 32e de finale de la Coupe de France, Yann Pécheral.
Avec le but niçois à l'instant même, il est signé Alexandre Mendy alors qu'on joue la 39e minute ici à l'Allianz Riviera. Un corner pour l'OGC Nice, la tête de Valère Germain repoussé par Benoît Costil et Alexandre Mendy en pivot du pied gauche qui frappe de toutes ses forces le ballon avec un petit peu de réussite qui frôle le poteau droit de Costil. Ça fait 1-0 pour les Niçois. Il reste 5 minutes à disputer dans cette première période.
Merci Yann. Allez, on parle proie.
RMC, le débrief basket.
Et donc le Paris Levallois, un nouvel entraîneur avec qui tu as remporté une médaille de bronze à l'Euro en Serbie en 2005, Tony. C'est Frédéric Fautou dans le Tipeee Show.
Ça va Freddy, tu vas bien?
Salut Tony, ben ouais ça va très bien, impeccable.
Ça fait et plaisir, plaisir de t'avoir.
Ouais, merci, c'est sympa quoi, ça fait drôle. J'espère que je vous suis à distance, mais bon.
Ça fait un peu bizarre de te voir head coach quoi, coach principal quoi.
Voilà. Et moi donc, je sais pas si il va falloir que je mette la cravate, il va falloir que je demande à Jacques et au président.
Tu sais, ça c'est pas très important. Hein.
Ah bon, ça va, bon.
Mais si tu gagnes les matchs et puis tout ira bien.
C'est clair.
Et t'en parlais déjà à l'époque quand on était en équipe de France que tu voulais justement être peut-être coach un jour. Est-ce que tu ça t'est pas un peu bizarre que t'es arrivé aussi vite ou tu sens que t'es prêt?
Ben sincèrement, je sens que je suis prêt. Ouais. Alors c'est sûr que c'est arrivé un petit peu rapidement parce que la décision d'Antoine a été un peu surprenante. Ça c'est sûr. Moi j'étais prêt à faire mes 2 ans. Sans problème avec lui. Maintenant, il a fait un choix de se mettre un petit peu en retrait. Et moi, franchement, cette nouvelle fonction ne me fait pas du tout peur. Au contraire, elle m'excite, quoi. C'est super motivant. Et puis, je connais bien le groupe en plus, donc ça aide encore un peu plus.
Et justement, tu t'attendais à cette décision d'Antoine ou tu as été vraiment surpris?
Non, je n'attendais pas du tout. Alors bon, c'est vrai que des fois, on avait des discussions un petit peu sur l'avenir. Et bon... Antoine, tu vois, tu connais aussi parce que tu avais nous aussi en 2005. C'est quand même quelqu'un de très secret, quoi, qui est vraiment, tu vois, qui garde des choses pour lui. Donc on ne peut pas toujours tout savoir, mais bon, c'était pas quelque chose qui ressortait de lui. Donc voilà, c'était une grosse surprise. Mais quand il m'en a parlé, il y a maintenant presque 8 jours, non pardon, 10 jours, ben en fait la tâche là et la mission, si tu veux, m'a pas effrayé du tout, pas du tout.
Et quand on t'a proposé le poste, t'as hésité ou tout de suite t'as accepté?
Non, j'ai pas du tout hésité parce que bon, je connais un petit peu ma personnalité. J'ai déjà eu des équipes, même si c'était à un niveau amateur, j'ai déjà eu des équipes à moi, je sais comment je fonctionne. Les étés, je partais des équipes de France de jeunes, bon, je m'étais mis en ligne, je voyais aussi le haut niveau de jeunes, comment ça évoluait. Donc j'ai pas du tout hésité. Ben parce que ben je sais pas, je sens un truc quoi, je me sens là. Et puis bon, comme j'ai dit tout à l'heure quoi, c'est l'excitation aussi qui a envie, qui fait que tu vois, t'es derrière, tu regardes, t'observes. Puis un jour tu vois, tu sais très bien que même quand t'es joueur, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Et puis après ben on verra bien, comme a dit Jacques tout à l'heure, le principal maintenant c'est de gagner des matchs, hein.
Ah ben justement, ça va être première expérience à la tête d'une équipe professionnelle. La patte Fred Fautou, alors ça va ressembler à quoi? J'imagine que tu vas pas balayer tout le travail que vous avez mis en place avec Antoine.
Non, on va pas tout balayer, mais bon, moi j'ai essayé d'apporter ma patte à moi. Avec Antoine, on est quand même, c'est pour ça qu'on nous a choisi aussi à tous les deux. On est différents et complémentaires. Il est beaucoup plus calme que moi, donc moi je vais essayer d'amener un petit peu ma rage de vaincre, mon envie de gagner. Peut-être aussi, c'est sûr même, des ajustements dans le jeu où on va pas trop dévoiler les choses, mais prendre un jeu un peu plus ouvert où les mecs essayeront de prendre du plaisir à jouer. Voilà, en tout cas, moi j'ai envie que les mecs s'éclatent, et pour s'éclater, tu sais bien qu'il faut faire des efforts, il faut se faire mal avant de pouvoir prendre du plaisir.
Freddy Fautou dans le Tipeee Show, si vous nous rejoignez. Le nouveau coach du Paris Le Valois, puisque Antoine Rigozo a préféré arrêter. Hein.
J'ai juste complété, Tony, en disant qu'on a pris un renfort de poids pour Freddy aussi, en assistant. Ouais, c'est Sacha Giffa. Voilà, avec Manu Pinda, ils vont faire un triptyque de jeunes coachs. Et bah, c'est l'heure hein, pour cette génération-là de faire le taf. Voilà.
Et franchement, Jacques, tu vois, d'être entouré de Manu et de Sacha, c'est quand même quelque chose d'assez réconfortant, puisque Manu, ben lui, bon, il connaît bien le milieu parce qu'il est depuis un petit moment. Et Sacha, tu vois, c'est quand même le cadre acquis de l'époque. Il connaît le club par cœur, il connaît les jeunes joueurs du club. Et c'est vrai que de démarrer avec un staff comme ça, c'est plutôt rassurant.
Manu.
Manu Pinda, fils d'Emmanuel Pinda, senior, le karatéka. Voilà, les deux fils sont basketteurs et son frère Kinsley a été pro et Manu est coach depuis des années. Voilà, Manu
donc Pinda. Il a appelé son fils Junior en fait.
Voilà, c'est Junior.
C'est Manu, Junior,
ça s'appelle, Pinda. Ça s'appelle une
grand champion ça, Emmanuel Pinda.
Bien sûr, mais là il a fait une Jean-Claude Van Damme.
Freddy Fautou dans le Tipeee Show, t'as pas l'air trop stressé, t'as pas l'air d'avoir plus de te mettre plus de pression que ça, mais ça doit bouillir, non, quand même sous le crâne là.
Alors là, ne vous inquiétez surtout pas pour moi, j'ai la pression qu'il faut, mais en général, je me la mettais aussi quand je jouais, c'était la pression plutôt positive. Donc là-dessus, pas de problème, je fais ce qu'il faut.
D'un seul coup, il va vieillir, là.
Qu'est-ce que tu dis, Tipeee? On n'a pas bien entendu.
D'un seul coup, il va vieillir, là.
Il va mettre des cheveux blancs, ouais.
Et tu sais que Tony, j'ai un de tes coéquipiers qui m'a proposé d'être assistant. Mais je te le laisse pour jouer encore un petit peu. C'est Boris, et j'espère que vous allez faire une grande saison.
Boris, il serait bien en coach.
C'est vrai, il lui a proposé, il m'a montré le texto, il lui a proposé de devenir son assistant.
Bon, la voie est toute tracée pour Boris. Il était comment, Freddy, d'ailleurs, joueur en équipe de France, Tipeee? C'était un stressé ou pas?
Non, pas du tout. Moi, ce que j'aimais bien, c'était comme il a dit tout à l'heure, sa rage de vaincre, et qu'il voulait tout le temps gagner. Et ça, c'est important quand t'as des joueurs qui sortent du banc et qui sont aussi investis que les titulaires. Il était motivé tous les jours, il poussait tout le groupe vers l'avant. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'étonne pas qu'il est head coach, parce qu'il a toujours eu ça en lui, d'être le leader et de tirer, on va dire, le groupe vers le haut. Donc c'est pour ça que j'espère qu'avec Paris, il arrivera justement à faire partager cette rage de vaincre et cette passion pour le basket.
Tu t'es déjà fixé des objectifs, parce qu'on a parlé un peu du projet de jeu, etc. Mais est-ce que tu t'es déjà fixé des objectifs de résultats?
Ouais, de toute façon, l'objectif du club, c'est le maintien. Donc bon, là-dessus, c'est très clair. Et surtout, on a déjà un mois de janvier qui, pour nous, peut être, pas dire capital, mais important. Il nous manque une petite victoire à l'extérieur. On a deux matchs à l'extérieur avec des concurrents quasi directs que sont Orléans et Pau. Donc voilà, si on pouvait gratter déjà un match à l'extérieur et bien sûr les matchs à domicile, en termes d'objectifs sur le mois de janvier, ça serait sympa.
Tiens, dernier mot, Freddy, dis-nous un mot de ce que tu penses de cette équipe de France, bon, que tu connais bien évidemment, puisque tu étais pas si longtemps que ça. Comment te sentent tes successeurs là? Ils ont fait un sacré bout de chemin quand même, hein?
Bah, franchement, c'est super, quoi. C'est vrai qu'en 2005, ça faisait des lustres qu'on n'avait pas gagné, que l'équipe de France n'avait pas gagné de médaille. Donc, je me dis qu'on a posé la petite graine. Et franchement, moi, je suis admiratif. Bon, c'est parce que Tony est là, quoi, mais de Tony et Boris, de voir des mecs comme ça qui tous les étés remettent les baskets pour apporter à l'équipe de France, et de voir que les mecs adhèrent à ce projet, donc sous la baguette de Vincent. Moi, franchement, je suis super fier de les voir été après été conquérir des médailles, des titres. Là, bon, malheureusement, moi, on était à Lille pour voir la demi, et bon, c'est la finale. Donc c'est voilà, ça fait mal au cœur pour eux. Ils vont remettre ça avec des qualifs. Mais voilà, moi je suis très très vraiment fier et heureux de les voir cet été, et toujours déçu par contre de voir certains qui disent je viens, je reviens pas quoi. Et ça c'est dommage pour l'équipe de France quoi. Maintenant chacun a sa vie, chacun fait ses choix, mais voilà, en tout cas pour ceux qui viennent, moi je suis toujours à fond, hein, mais vraiment à fond derrière quoi.
Bon, alors je sais pas à qui tu penses, je vais pas te le demander, ça sert à rien, simplement
bon, il y en a trop
non mais je vous rappelle aussi l'information, parce que c'est aussi une information que nous a donné Patrick Bisley tout à l'heure, le DTN. Pour lui, le dossier Joachim Noah n'est plus d'actualité, c'est-à-dire que actuellement en tout cas aujourd'hui au 4 janvier il n'est plus un candidat à l'équipe de France.
Il l'a validé en disant que c'était par rapport à ce qu'il avait dit l'année dernière, et aussi par rapport à la situation contractuelle de Joachim, qui fait partie des dossiers qui... Il y a déjà Nico Batum qui va être compliqué à gérer, donc il va peut-être pas les cumuler non plus quand même.
Merci Freddy.
Avec plaisir, merci à vous, merci Tony.
À bientôt, jeune
homme. Pour évoluer comme ça, et puis bonne chance pour la saison. Hein.
Merci beaucoup, merci.
Allez, juste avant d'accueillir Damien Inglis qui essaye de faire son trou à Milwaukee, on va parler hockey avec un habitué, c'est Pierre-Édouard Belmar. Mais d'abord, la mi-temps au foot, 32e de finale de la Coupe de France Nice, Rennes, Yann Pécheral.
C'est la pause à Nice et c'est l'OGC Nice qui mène 1-0 grâce à Alexandre Mendy à la 39e. Les Rennais qui ont essayé de réagir dans la foulée, ils ont même inscrit un but par l'intermédiaire de Giovanni Sio, mais il a fort logiquement été refusé pour une position de hors-jeu. Ils vont devoir pousser ces Rennais en deuxième période, car à la pause, c'est Nice qui mène 1-0.
Merci Yann, à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. On parle des sports US dans le Tipeee Show, et tout de suite on va accueillir Pierre-Édouard Belmar, le joueur des Philadelphia Flyers en NHL. Il est avec nous, Pierre-Édouard.
Ça va, et toi?
Bon, saison un peu difficile là pour vous à Philadelphie, là. Ça se passe comment là?
Tout se passait bien jusqu'à Noël. Noël est arrivé, on a eu un peu trop de montants, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais trois rencontres du côté ouest et trois perdus. Du coup, c'est difficile là.
Et donc, tu penses que vous pouvez remonter la pente?
Oui, parce que malgré les trois défaites. Notre conférence est vraiment serrée, du coup deux matchs gagnés d'affilée et tu te retrouves dans une place pas loin des playoffs. Du coup c'est vraiment faisable, mais c'était plus dans la façon dont on a joué les trois matchs qui nous ont fait du mal quoi. C'est pas vraiment une façon dont une équipe qui veut aller en playoffs peut jouer.
Et de ton côté alors, comment ça se passe jouer en NHL? C'était un rêve pour toi comme moi avec la NBA, ça représentait quoi la NHL quand t'étais petit?
Je sais que le basket et le hockey c'est un peu similaire en France, mais le hockey, moi toutes les chances que j'ai eues, tous les mondiaux, ça a toujours été j'ai toujours fini avec les joueurs, les trois meilleurs joueurs du tournoi, tout ça, quand j'étais plus jeune, moins de 20 ans, moins de 18 ans, et à chaque fois c'était le même discours qui arrivait après. Une fois que t'as parlé avec des scouts à NHL, c'était toujours n'oublie pas que ça arrive jamais aux Français. Du coup moi ça a vraiment toujours été, j'ai toujours travaillé pour des petits buts en fait, pour venir en Suède et puis après y arriver en Suède, devenir un joueur plus important, partir dans la grande ligue, faire partie des leaders de l'équipe. Et puis il y a deux ans de ça, c'est la première fois où la NHL a commencé à connaître mon nom, ce qui m'a un peu surpris, je t'avouerai.
Et tu penses que c'est quoi alors, la grosse différence entre le hockey américain et européen?
Forcément le fait qu'il y ait plus d'argent, il y a plus de gens qui supportent, faire en sorte que tous les meilleurs joueurs vont venir aux États-Unis. Mais mis à part ça, le fait qu'il y ait 82 matchs, tu sais, quand tu joues au hockey, c'est encore une fois, c'est comme le basket, c'est plus tu joues de matchs et plus tu as une chance de devenir meilleur, et tu peux t'entraîner toute ta vie et ça va pas te rendre spécialement incroyable. Il faut que tu puisses jouer avec et contre des joueurs qui soient aussi plus haut que ton niveau pour pouvoir évoluer. Et je pense qu'en Europe, le fait que tout le monde s'en aille, du coup, ça porte un peu préjudice au jeu européen. Et puis après, l'autre chose aussi, c'est que je sais que pour le hockey français, on continue à prendre beaucoup de joueurs qui sont étrangers et pas spécialement miser sur nos jeunes. Et du coup, nos jeunes, ils mettent beaucoup plus de temps à évoluer, où il faut partir à l'étranger comme toi tu l'as fait ou comme moi je l'ai fait. Sinon, c'est pas possible, quoi.
Pierre-Édouard Belmar dans le Tony Parker Show, on parle de hockey avec le joueur des Philadelphia Flyers. Il y a un autre Français en NHL, hein, on le sait bien sûr, puisqu'on l'accueille aussi régulièrement dans le Tipeee Show, c'est Antoine Roussel à Dallas. Est-ce que tous les deux vous vous sentez aussi investis d'une mission, un peu comme Tony et Boris en équipe de France?
Oui, on ne sait pas, moi je ne pense pas dans ce sens-là où... Tu veux montrer le fait de revenir avec la France. Ça a toujours été les tournois avec l'équipe de France, c'est toujours où tu revois les potes, quoi. On a eu toutes les galères ensemble dans les poules des mondiaux en dessous, et maintenant qu'on est dans le mondial A, ça reste la même chose, quoi. T'as envie de revenir voir tous les potes qui jouent en France, les potes qui jouent en Europe, et ça reste dans ce sens-là où c'est cette façon de penser plus que faut qu'on revienne pour montrer l'exemple. En fait, si on revient, c'est comme naturel. Il n'y a pas de question de revenir ou pas revenir. Moi, l'année dernière, c'est la première fois depuis 12 ans où j'ai pas fait le mondial. Et moi, ça faisait 3 ans qu'il fallait que je me fasse opérer. Et ça a été vraiment dur d'accepter le fait de pas venir et de l'équipe de France. On est que deux. Et forcément, quand on était plus jeune, on voulait tous les deux. Moi, on n'aimait pas quand il y avait des joueurs qui jouaient à l'étranger. Ils nous disaient non, je ne peux pas jouer, sinon c'était trop long. Du coup, on va pas à notre tour montrer ce genre de travail-là.
Surtout qu'il y a un championnat du monde qui arrive en France l'année prochaine. Avant de te libérer, qu'est-ce qu'on peut espérer sur cette compétition?
Tu parles du mondial 2016 ou...
Non, c'est 2017 en France, c'est ça?
2017 en France, aussi en France.
Ouais, et qu'est-ce qu'on peut espérer à la maison dans cette compétition?
Honnêtement, j'aimerais dire à tout le monde, la France, qu'on va se battre pour un quart de finale, tout ça, mais la France, on reste quand même une nation qui est... Oui, c'est sûr, on est sur un processus un peu plus à long terme, mais il faut qu'on continue à se maintenir dans le mondial A pour que nos jeunes joueurs se soient montrés et évoluent pour partir du pays, pour qu'un jour on puisse tous arriver à avoir une équipe vraiment solide pour peut-être aller accrocher un quart de finale et une médaille après. Mais la France, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le niveau pour prétendre une médaille, et il faut qu'on reste bien les pieds sur terre et travailler pour justement donner le potentiel aux jeunes joueurs plus tard, dans quelques années.
Donc l'objectif, c'est rester dans le groupe mondial et progresser. Merci Pierre-Édouard.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Merci, à bientôt, bonne fin de saison.
Merci Tony. Merci, toi aussi.
Et on aime bien prendre des nouvelles des autres Français qui jouent dans les grandes lignes nord-américaines, Tipeee, le hockey notamment, très spectaculaire. Tu regardes d'ailleurs un peu, tu suis la NHL?
Ouais, je regarde de temps en temps. Bah, tu sais, ils jouent avant nous à chaque fois. Ouais. À chaque fois, ville, le match, enfin, le soir d'avant, c'était un match d'hockey. Sans doute que c'est toujours froid dans les salles quand on fait notre shooting.
Le Tipeee Show continue, et pour terminer, avant l'actu NBA, eh bien, on va parler avec Damien Inglis, jeune joueur français de 20 ans qui essaye de faire sa place au Milwaukee Bucks, l'adversaire des Spurs ce soir. Un témoignage intéressant parce que tout le monde n'a pas le même parcours, hein. On passe pas toujours les mêmes étapes avant d'arriver au top. Damien Inglis dans quelques instants dans le Tipeee Show, à tout de suite. Et puis bien sûr, n'oublie pas le 32e de finale de la Coupe de France entre Nice et Rennes.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Et ça continue avec Jacques Monclar jusqu'à 22h. C'est votre rendez-vous basket sur RMC chaque semaine, lundi 21h, 22h avant l'actu de la NBA, et notamment le Jimmy Butler qui imite Michael Jordan. On va prendre la direction de Milwaukee pour aller à la rencontre d'un jeune joueur français qu'on connaît un peu moins que les autres quand même en NBA, même si vous êtes de plus en plus nombreux. C'est Damien Inglis, 20 ans, qui a été drafté en 2014 par Milwaukee. Salut Damien.
Salut. Oula, un peu fatigué, Damien? Ouais, c'est un entraînement, là je me prépare pour le match tranquillement.
Ah, ok, bon, bah, comment ça se passe alors à Milwaukee? Est-ce que tu te sens de mieux en mieux dans cette équipe?
Ouais, ça va de mieux en mieux. C'était compliqué au début, super compliqué. Mais là, ça va, je commence un peu à trouver mes marques, et puis je pense que ça va bientôt se montrer sur le terrain.
Et je sais que t'as eu une grosse blessure à la cheville, ça va mieux?
Ouais, ça va, je suis remis. Après, le problème avec les blessures comme ça, c'est que voilà, on sait jamais vraiment à quel moment on sera à 100% parce que faut se remettre. Et puis moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec la tenacité, la vivacité, donc je sers beaucoup sans m'étonner. Donc voilà, ça fait que c'est compliqué à gérer, mais ici on fait un beau travail avec les gars de Milwaukee. Et bon, ça va, je suis à 100%, je suis prêt.
Et tu penses avoir ta chance prochainement? Est-ce qu'on aura l'opportunité de te voir ce soir? Tu penses que tu vas jouer?
Ce soir, je pense pas, parce que tu sais, là, on a un super début de saison catastrophique. Pas du tout aux espérances, pas du tout là, c'était passé. Donc là, on a pris beaucoup de retard. On est au 13e spot à l'Est. Donc il faut qu'on rattrape des matchs et, pour les playoffs, quoi. Donc le coach à l'heure actuelle, il fait jouer que. C'est difficile de faire tourner et de mettre les jeunes. Il fait jouer que les joueurs en qui il a confiance. Pour moi, pour rattraper le déficit. Donc là, ça va être compliqué pour moi pour les minutes à l'heure actuelle.
Et t'as déjà eu des discussions avec Jason Kidd? Est-ce qu'il attend quelque chose de toi? D'ailleurs, il est comment comme coach, Jason Kidd? T'aimes bien?
Ouais, j'aime bien. En plus, il est revenu ce matin parce qu'il s'était fait opérer. Il avait une opération à la hanche, donc il n'était pas là pendant. Il a raté 2-3 semaines, je pense. Donc il est revenu ce matin un peu avec l'équipe. J'ai parlé avec lui. C'est Jason Kidd, j'avais parlé. Enfin, j'ai passé les times l'année dernière à m'entraîner, je lui ai parlé. Et puis. Il m'avait dit quelque chose que, enfin, qui me rappelle tout le temps d'ailleurs, c'est qu'en fait, il me voit comme le bébé de l'équipe. Que, moi, ça me fait rire, mais c'est la vérité en plus, c'est que c'est vraiment le futur avec moi. Il me garde un peu, il veut que je sois là tout le temps, mais il m'a toujours dit que mon moment, c'est pas maintenant, qu'il faut encore que j'attende. Donc, moi, je travaille, je continue à travailler, puis je pense que je sais pas exactement quand, mais. Je continue juste à travailler, et puis lui, il me mettra sur le terrain, ça va lui devoir.
Damien Inglis, joueur de Milwaukee, hein, qui a fait quelques allers-retours avec la D-League, mais qui commence à être intégré à l'équipe.
C'est un des problèmes de Milwaukee, c'est que contrairement à... Tu dis, Damien, c'est Jacques Monclar, si tu dis une bêtise, mais contrairement, par exemple, à San Antonio, où l'équipe de D-League, c'est les Austin Toros, c'est établi, il y a une vraie connexion. Eux, ils sont en recherche d'un endroit pour mettre leur équipe de D-League.
Ah ouais.
Et donc, c'est vrai que c'est un petit problème pour les gars qui reviennent de blessure, comme ça a été le cas avec Jabari Parker, ou les garçons comme Damien, qui auraient besoin de minutes. Et en ce moment, Milwaukee, qui est en train de se structurer, qui a changé plein de choses, le logo, il y a une véritable dynamique là-bas. Bon, il faut juste qu'ils regagnent des matchs comme l'année dernière, mais bon, ça c'est un manque, l'histoire de la D-League.
C'était une des équipes que tu voyais dans les bonnes surprises possibles, hein, cette saison.
Voyais, je les voyais dans les 6 premiers à l'Est et ils sont loin du compte. En plus, à l'Est en ce moment, c'est très haut en pourcentage de victoires-défaites.
Damien Inglis, donc, dans le Tipeee Show aujourd'hui, joueur de Milwaukee. Ce soir, il y a Milwaukee, San Antonio. Est-ce que à 20 ans, tu te dis, j'ai fait le bon choix à venir en NBA, même en étant drafté en 31e position, c'était la bonne chose à faire, Damien?
Pour moi, oui. Tous les jours, on n'a pas tous, la même carrière, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais. Pour moi, c'est la bonne solution parce que déjà, j'étais blessé au moment de la draft. Enfin, juste avant la draft, j'étais blessé. Je ne savais pas à quel moment j'allais revenir de ma blessure et ni comment. Donc, ça fait que j'aurais déjà perdu un an et demi. Donc, ça aurait été un peu plus compliqué. Et, au moment où ma draft était, enfin, au moment de ma draft, toutes les équipes NBA, elles me voulaient déjà. Enfin, toutes les équipes avec qui. J'avais fait des workouts ou quoi. C'est des équipes qui voulaient que je vienne déjà dans leur équipe pour que, voilà, ils me préparent pour le futur. Donc, après, au niveau au moment de la draft, c'est un peu moins bien passé parce que, voilà, l'opération, ma cheville, elle a pas très bien répondu à l'opération. Donc, il y a quelques petites galères. Donc, moi, c'était le moment d'y aller, c'était le moment d'aller en NBA. Surtout que Milwaukee, il n'avait pas lâché l'affaire, il était prêt à. Pour que je vienne et pour me préparer, quoi. Et puis moi, je suis super content d'être ici aussi, donc ça va.
Damien Inglis, donc dans le Tipeee Show, un parcours atypique, hein, Jacques. Tiens, pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent ce jeune joueur qui était à Roanne, hein, en France, c'est quoi le
d'abord,
profil?
Il est de l'INSEP. Alors, c'est un ailier qui est très très physique, Damien, qui est bon sur le jeu rapide, qui doit bien sûr devenir plus consistant au niveau du shoot, qui est puissant, qui en Europe, en équipe de jeunes, a été totalement dominant dans les championnats de ses catégories d'âge. Voilà, il a pris le risque de la NBA. Alors, Ok, ce qui lui manque en ce moment, ce sont des minutes, c'est clair. Mais le potentiel du joueur, il est là. Et après, tu t'entraînes avec des garçons. Ben, bon, lui, il est pas à San Antonio, mais avec des gens comme Tony, comme Boris, enfin des grands pros. Tu ouvres les yeux, t'as des meilleurs entraîneurs du monde, t'es pris en charge physiquement et tout.
Il a progressé.
Ouais, bien sûr. Après, quand je l'entends dire, ce soir, je crois que je vais pas jouer. Tiens-toi prêt tous les jours. C'est pas moi qui devrais te dire ça. C'est Tony, mais tiens-toi prêt tous les jours. C'est pas toi qui choisira quand tu vas jouer. Hein. Donc, tiens-toi prêt tout le temps.
Quand je dis ça, c'est parce que comme il y a 3-4 joueurs sur la fiche de match et on est 14, donc je pense que je serai celui qui ne sera pas
bien. Là, c'est plus compliqué, effectivement.
Merci, Damien. On reprendra tes nouvelles régulièrement dans le Tipeee Show parce que ton parcours nous intéresse.
À
la prochaine, Damien. Juste avant l'actu NB, on va retourner sur le direct parce que ça repart en 32e de finale entre Nice et Rennes, la Coupe de France. Yann Pécheral.
C'est reparti depuis 3 minutes dans cette deuxième période et Nice mène toujours 1-0 grâce à Alexandre Mendy à la 39e. Pas de changement à la pause et une succession de corners là pour les Niçois, mais sans danger pour Benoît Costil. On en reste à 1-0 pour Nice. On joue la 39e minute.
Merci Yann, on va terminer avec l'actu NBA tout de suite dans le Tipeee Show. Alors tiens, d'ailleurs on vient d'apprendre, enfin il y a quelques minutes, tu dois le savoir, que Greg Popovich est le coach du mois à l'Ouest, hein, coach Popovich qui continue de...
Et Scott Skiles, le coach Evan Fournier à l'Est.
Les distinctions. Alors l'événement de la nuit dernière, c'était Jimmy Butler avec les Bulls qui a mis 42 points, donc 40 dans une seule mi-temps. Alors il a battu un record de Jordan qui en avait mis 39 en 1989 d'ailleurs contre Milwaukee. Ce Jimmy Butler, c'est pas le joueur le plus connu du grand public, hein, de Chicago. C'est un sacré joueur, Tony.
Non, c'est un très bon joueur, hein. C'est un très très bon joueur, c'est un joueur qui joue des deux côtés du terrain et c'est pas mal, hein, quand même ce qu'il a fait hier soir. Pas mal.
Alors, on vous donne la parole, bien sûr, on vous donne la possibilité de discuter en direct avec Tony Parker et Jacques Monclar. Clément nous appelle au 32-16 dans le Tipeee Show. Salut Clément.
Messieurs, bonsoir. Bon. Bonne année à tous. Moi, du coup, je voulais parler un peu de ce qui va arriver prochainement, à savoir le All-Star Game, notamment des joueurs français. Alors moi sur le, je voulais parler de l'Est et moi je mettrais une, j'espère que monsieur Nicolas Batum sera sélectionné. Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Je crois qu'actuellement il est 10e au niveau du classement des votes. Je voulais savoir si c'était un joueur qui était susceptible, ce qu'en pensait Tony aussi, si c'était pas le français qui aurait le plus la possibilité de jouer sur le Star Game.
Il peut être choisi par les coachs, tu penses, Tipeee?
Bon, on en avait parlé la semaine dernière, hein. Il y avait déjà un fan qui avait déjà posé la même question. Et donc je vais répondre la même chose, hein. Je pense qu'il a une bonne chance, hein. Charlotte fait une bonne saison. Donc on verra bien. Hein.
En tout cas, ce qui fait. Oui, Jacques, sur Nico.
Oui, moi je le souhaite de tout cœur. Ce que vient de dire Tony, c'est tout à fait juste. Le seul bémol que je mettrais, c'est que dans son équipe, il y a Kemba Walker, qui est meilleur marqueur, meilleur passeur. Et est-ce qu'il mettrait deux mecs de Charlotte? Je suis pas sûr.
Ça compte ça vraiment?
Demande à Tony.
Ouais, mais... Il a raison, Jacques. Parce qu'à mon avis, ils ne prendront pas deux joueurs de Charlotte.
Non. Donc, il faut voir.
Donc, Kemba Walker en numéro 1, peut-être, et Batum, éventuellement. Ce qui fait beaucoup parler sur les votes du All-Star Game, c'est Kobe Bryant qui est en tête à l'Ouest. Mmh. C'est bon, c'est attendu et c'est génial comme ça, non?
Oui, c'est bien.
Hein, Tony, ça va être le All-Star Game de Kobe, c'est clair.
À Jordan en 2003, c'est normal, franchement.
Ouais.
S'il
y a bien un match qu'il doit faire, c'est celui-là.
Oui, et puis surtout, connaissant les Ricains, ils vont savoir mettre les petits plats dans les grands et ça va être le All-Star Game de Kobe, ça, non?
Non, mais ça, c'est sûr et certain. C'est normal, il mérite.
Première fois de l'histoire que ça se passera pas sur le territoire états-unien.
Parce que c'est où?
À Toronto, de l'autre côté.
Bon, ça reste une franchise
d'accord,
NBA.
D'accord, mais quand même.
Et puis à l'Est, c'est Kyrie Irving qui est en tête des arrières alors qu'il a... quasiment pas encore joué, il reprend tout juste. C'est normal ça, Jacques, sur le niveau, sur...
Ça fait partie des phénomènes internet, tu sais. Parfois il est très bien que les coachs rééquilibrent les équipes par leur désignation au-delà des 5 de départ.
Voilà. Merci Clément pour ton appel et on suivra ça pour Nico Batum, on sait jamais.
Il faut le suivre, il a raison Clément. Mais et ce qui est bien, ce qui nous a fait remarquer Clément, c'est que Nico est bien placé dans les ailiers, il est dans la course quoi, il apparaît dans le classement donc
Romain, au 32-16, dans le Tipeee Show. Salut Romain.
Oui, bonsoir. Salut Tony, toute l'équipe des RMC. Alors, tout d'abord, une bonne année, hein, Tony, avec les Spurs dans un premier temps et l'équipe de France. Moi, je voulais te parler des Lakers. Ils ont déclaré très récemment que ils dédient la saison à Kobe. Je voulais savoir un petit peu ce que tu en penses. Est-ce qu'il aurait mieux pas fallu qu'ils mettent Kobe en sixième homme de luxe, plutôt de voir faire son jubilé?
Arrête tout de suite. Moi, je suis très très content pour Kobe. C'est génial ce qu'ils font les Lakers. Il mérite amplement pour tout ce qu'il a fait pour le basket et tout ce qu'il a fait pour les Lakers.
Il s'est offert une belle victoire entre guillemets de prestige à Boston quand même. Ça, c'est une belle, un beau petit clin d'œil aussi parce que c'est la grosse rivalité de la NBA et avec leur équipe un peu brinque-ballante, ils sont allés gagner là-bas.
Et on avait rarement vu un mec de Los Angeles autant honoré avec, ils lui ont offert une latte du Garden, c'est-à-dire un bout du plancher, c'est magnifique ça. Alors ça, chapeau.
Tu peux nous dire un mot de cette image, Tony, parce que c'était pas forcément gagné d'avance.
Non, mais moi je dis largement mérité. Et je pense que maintenant tous les gens ils veulent montrer leur respect par rapport à tout ce qu'il a fait pour le basket. Et Boston Celtics, c'est un des endroits où t'as envie de bien jouer là-bas. C'est beaucoup d'histoire. C'est le club le plus titré de la NBA. Et donc ils ont beaucoup de respect pour les joueurs qui ont marqué la NBA.
Merci Romain de nous avoir fait parler un peu de Kobe parce que c'est aussi un des fils rouges de la saison de NBA et donc du Tipeee Show. Juste un dernier mot sur Golden State quand même, puisqu'on est dans l'actu de la NBA. Deux défaites, puisqu'il y a eu une deuxième défaite face à Dallas. Un jour où Stephen Curry ne jouait pas d'ailleurs, ils vont avoir besoin d'un Curry au top au bon moment quand même, hein, parce que ce record qu'ils sont en train de chasser, c'est pas l'essentiel de la saison. Hein. Ça peut être inquiétant cette blessure de Curry, même si c'est pas a priori une très grosse blessure.
Ah là là, les journalistes, truc de journaliste.
Pourquoi truc de journaliste? C'est quoi le...
Parce que j'aime bien comment tu t'inquiètes, c'est rien toi.
Mais quand même, moi là où je suis surpris, c'est que c'est une blessure musculaire et ils le font rejouer vite quoi. Alors que bon.
Tu veux dire qu'ils auraient pu prendre leur temps pour.
C'est-à-dire que j'étais très surpris qu'ils le remettent sur le terrain pour l'enlever 10 minutes après. Mmh. Quoi. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt et qu'il a peut-être envie de jouer. Mais non, c'est pas maintenant qu'il faut gagner les matchs. Quoi. Il va falloir, s'ils veulent faire le back-to-back, Tony il le dit, les Spurs, en son expression, Popovic en est le mec qui met ça en place. C'est au mois de mars-avril, mai, qu'il faut gagner les matchs. Hein. La fin de saison régulière, c'est le 16 avril. Hein, donc,
Bon, et aux Spurs, on l'a compris depuis longtemps, puisque je vous rappelle que ce soir, Tipeee est en repos. Les Spurs se passeront de lui à Milwaukee.
Ils les mettent à l'herbage, tu sais, ils les cryogénisent.
Tony, on se retrouve la semaine prochaine, 21h-22h. Repose-toi bien, soigne-toi bien.
Bonne année à tout le monde, à très bientôt.
Et l'année démarre fort en foot, puisque Zinedine Zidane est le nouveau coach du Real Madrid. Évidemment, Gilbert Bribois, on va beaucoup en parler dans l'after.
Et oui, on va en parler dans quelques instants. Dans l'after, en plus du match de Coupe de France du soir entre Nice et Rennes, Yann Pécheral, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, salut à tous.
Il y a combien ?
Il y a 1-0 pour l'OGC Nice grâce à Alexandre Mendy à la 39e. Et on joue depuis 55 minutes, mais les Rennais se rebiffent.
Et on se retrouve dans quelques instants dans l'after, bien sûr. On rappellera également le tirage au sort de la Coupe et plus toute l'actu mercato du jour. L'after jusqu'à minuit avec vous, bien sûr. Tiens, on a encore quelques secondes, Yann. Tu peux revenir sur ce qui s'est passé en ce début de match.
Ouais, une première période assez fermée entre les Niçois et les Rennais. On a eu une belle occasion niçoise avec une tête de Paul Bayce et puis une frappe de Pedro Henrique côté Rennais. Pas grand-chose. Par contre, Alexandre Mendy, l'homme des coupes, hein, il a déjà marqué en Coupe de la Ligue. Et là, bien, c'est lui qui a débloqué la situation niçoise en première période avec une tête de Germain repoussée par Costil et Mendy au deuxième poteau en pivot du gauche. Il a frappé fort, il a trompé le gardien rennais. On a quand même un bon Atem Ben Arfa ce soir. Il est bien en jambes dès ce début de 2016. C'est vrai qu'on a vu quelques accélérations qui ont fait mal au rennais. Un Montagnier assez assez en colère quand même, l'entraîneur rennais, après la première période assez insipide de ses hommes. Ils sont bien rentrés dans la deuxième mi-temps, les rennais, mais très peu dangereux. Hein. Une frappe de Romain Danzé, déviée. C'est tout pour le moment. 1-0 pour Nice, 57e minute.
Et pendant ce temps-là, sachez que le tirage au sort a été effectué. Le vainqueur de ce match recevra Bourg-en-Bresse, club de Ligue 2. Donc, au tour suivant dans une quinzaine de jours. Allez, l'after dans quelques instants, jusqu'à minuit avec vous.